Deux ou trois semaines après Pâques, on me délivra du juif. Mais ce pauvre homme ne fut pas renvoyé chez lui. On le mit aux quatre, d'où il sortit quelques années après pour aller passer le reste de ses jours à Trieste. Dès que je me suis vu tout seul, je me suis mis à mon ouvrage avec le plus grand empressement. J'avais besoin de l'achever et de m'en aller avant qu'on m'amenât quelque nouvel hôte qui eût voulu qu'on balaye. J'ai retiré mon lit, j'ai allumé ma lampe, je me suis jeté sur le plancher, mon esponton à la main, après avoir étendu à côté de l'endroit une serviette pour recueillir les petits débris du bois que j'allais ronger avec la pointe du verrou. Il s'agissait de détruire la planche à force d'y enfoncer le fer. Ces fragments, au commencement de mon travail, n'étaient pas plus grands qu'un grain de froment. Ces chicots, dans la suite, devinrent plus gros. La planche était du bois de mélèze de 16 pouces de largeur. J'ai commencé à l'entamer à sa connexion à l'autre planche. Il n'y avait ni clous ni fer et mon ouvrage était tout uni. Après 6 heures de travail, j'ai noué ma serviette et je l'ai placée de côté pour aller la vider le lendemain derrière le tas de cahiers qui était dans le fond du galetas. Les fragments de la rupture formaient un volume 4 à 5 fois plus grand de la cavité d'où je l'avais tiré. La courbe pouvait être de 30 degrés d'un cercle. Son diamètre était de 10 pouces à peu près et je me suis trouvé très content de mon travail. J'ai remis mon lit à sa place et le lendemain, en vidant ma serviette, j'ai reconnu que je n'avais pas motif de craindre que mes fragments fussent vus. Le second jour, j'ai trouvé sous la première planche, qui avait 2 pouces d'épaisseur, une seconde planche que j'ai jugée pareille à la première. N'ayant jamais eu le bonheur, malheur d'avoir des visites, et étant toujours tourmenté de la crainte d'en avoir, je suis parvenu dans 3 semaines à la parfaite dissolution de 3 planches sous lesquelles j'ai trouvé le pavé incrusté de pièces de marbre qu'on nomme à Venise Terrazzo Marmorin. C'est le pavé ordinaire des appartements de toutes les maisons de Venise qui n'appartiennent pas à des pauvres gens. Les grands seigneurs même préfèrent le terrazzo au parquet. Je me suis vu consterné lorsque j'ai trouvé que mon verrou n'y mordait pas. J'avais beau appuyer, pousser, ma pointe glissait. Cet incident m'abattait l'esprit. Je me suis souvenu d'Hannibal qui, selon Tite-Live, s'était formé un passage à travers les Alpes en brisant à coups de hache les durs cailloux qu'il rendait tendres à force de vinaigre. Chose que j'avais trouvée incroyable, mais pas par la force de l'acide, mais par la prodigieuse quantité de vinaigre qu'il aurait dû avoir. Je croyais qu'Hannibal avait réussi à cela, à accetta, et non pas à setto, erreur que les premiers copistes de Tite-Live pouvaient avoir faite par incurie. J'ai tout de même versé dans ma concavité une bouteille de fort vinaigre que j'avais, et le lendemain, soit l'effet de ce vinaigre, soit une plus grande patience de ma part, j'ai vu que j'en viendrais à bout, car il ne s'agissait pas de briser les petits morceaux de marbre, mais de pulvériser par la pointe de mon esponton poussé le ciment qui les unissait, et je fus bien content lorsque j'ai vu que la grande difficulté ne se trouvait que sur la surface. Dans 4 jours, j'ai détruit tout ce pavé sans que la pointe de mon esponton s'en embrasât. Le lustre de ces surfaces était même plus beau. Sous le pavé marmorin, j'ai trouvé une autre planche comme je m'y attendais. Ce devait être la dernière, c'est-à-dire la première dans l'ordre de comble de tout appartenant dont les poutres soutiennent le plafond. J'ai entamé cette planche avec quelques difficultés majeures à cause que mon trou était devenu de 10 pouces de profondeur. Je me recommandais sans cesse à la miséricorde de Dieu. Les esprits forts, qui disent que la prière ne sert à rien, ne savent pas ce qu'ils disent. Je sais qu'après avoir prié Dieu, je me trouvais toujours plus fort. Il n'en faut pas davantage pour en reconnaître l'utilité. On prétend que cette augmentation de force soit un effet naturel de la matière rendue plus vigoureuse par la confiance qu'elle eut dans sa prière et que cela se fait sans que Dieu s'en mêle. Je réponds qu'une fois qu'on admet Dieu, Dieu doit se mêler de tout. Ceux qui ont une religion ont bien des ressources que les incrédules n'ont pas. Les premiers y entendent peu, mais les derniers n'y comprennent absolument rien. Enfin, poursuivons. Le 25 du mois de juin, jour de la fête que la seule République de Venise célèbre en mémoire de la prodigieuse apparition de l'évangéliste San Marco sous la forme emblématique d'un lion ailé dans l'église du Cal vers la fin de l'XIe siècle, événement qui démontra la sagesse du Sénat, qu'il était temps de remercier saint Théodore, dont le crédit n'était pas assez fort pour la faire réussir dans ses vues d'agrandissement, et de prendre pour son patron ce saint disciple de saint Paul, ou, selon Eusèbe, de saint Pierre, que Dieu lui envoyait. Dans ce même jour, 3 heures après-midi, lorsque, tout nu et fondant en sueur, étendu sur mon ventre, je travaillais dans le trou que, pour y voir, j'avais ma lampe allumée, j'ai entendu, avec un effroi mortel, l'aigre craquement du verrou de la porte du premier corridor. Quel moment ! Je souffle ma lampe, je laisse dans le trou mon esponton, j'y jette dedans ma serviette, je me lève, je mets à la hâte les chevalets et les planches du lit dans l'alcôve, j'y jette dessus la paillasse et les matelas, et n'ayant pas le temps d'y mettre les draps, j'y tombe dessus comme mort dans le moment que Laurent ouvrait déjà mon cachot. Si j'eusse tardé un seul instant, on m'aurait surpris. Laurent allait me marcher sur le corps si je n'eusse pas crié. À mon cri, il recula, tout courbé sous la porte, en disant avec emphase : « Hélas, mon Dieu ! Je vous plains, monsieur, car on brûle de chaleur ici comme dans une fournaise. Levez-vous et remerciez Dieu qui vous envoie une excellente compagnie. Entrez, entrez, illustrissime seigneur. » Ce butor ne prend pas garde à ma nudité. Et voilà l'illustrissime qui entre en m'esquivant, tandis que, ne sachant pas ce que je faisais, je ramasse mes draps, je les jette sur le lit, et ne trouve nulle part une chemise que la décence m'obligeait à me passer. Ce nouveau arrivé crut d'entrer dans l'enfer. Je n'avais pas encore pu voir sa physionomie. J'ai entendu une voix désolée s'écrier « Mais où suis-je? Où me mettons? Quelle chaleur! Quelle puanteur! Mais avec qui suis-je ?» Laurent m'appela alors dehors, en me disant par la grille de mettre une chemise et de sortir dans le galetas. Il dit d'abord au nouvel hôte qu'il avait ordre d'aller chez lui pour lui porter un lit et tout ce qu'il lui ordonnerait, et que, jusqu'à son retour, il pouvait se promener dans le galetas avec moi, et que le cachot avec la porte ouverte se purgerait en attendant de la puanteur qui n'était que d'huile. Quelle surprise pour moi en entendant dire que la puanteur n'était que d'huile. Effectivement, elle venait de la lampe que j'avais éteinte sans la moucher. Laurent ne me faisait là-dessus aucune question. Il savait donc tout. Le juif lui avait tout dit. Que je me suis trouvé heureux qu'il n'ait pas pu lui dire davantage. J'ai conçu dans ce moment-là quelques considérations pour Laurent. Après avoir mis une autre chemise, des caleçons, des bas et une légère robe de chambre, je suis sorti. Le nouveau prisonnier écrivait avec du crayon ce qu'il voulait avoir. Ce fut lui qui dit le premier en me voyant « Voilà, c'est !» Je l'ai reconnu d'abord pour l'abbé Comte de F. Bressan, âgé de 20 ans plus que moi, très noble dans ses procédés, assez riche et aimé dans toutes les belles compagnies. Il vint m'embrasser, et lorsque je lui ai dit que j'aurais cru devoir là-haut tout le monde excepté lui, il ne put pas retenir ses larmes qui excitèrent les miennes. Il finit de donner ses ordres et nous restâmes seuls. La première chose que je lui ai dite fut qu'il me ferait le plus grand plaisir, lorsque son lit arriverait, en refusant mon offre de déplacer le mien pour placer le sien. La seconde prière que je lui ai faite fut de ne pas exiger qu'on balaye. Je lui ai promis de lui en dire les raisons à loisir. Je lui ai confié en attendant que la puanteur qu'il avait sentie venait d'une lampe que je possédais à l'insu de tout le monde et que j'avais soufflée sans étouffer la fumée du lumignon, n'en ayant pas eu le temps à cause de son arrivée imprévue. Il me promit tout ce que je désirais et se dit heureux d'avoir été mis avec moi. Il me dit que tout le monde ignorait mon crime et que par conséquent tout le monde voulait le deviner. Plusieurs disaient que je m'étais fait chef d'une nouvelle religion et que les inquisiteurs d'État ne m'avaient fait enfermer qu'à la réquisition de l'inquisition ecclésiastique. D'autres disaient que Madame L.M. avait fait persuader par le cher Hammock le tribunal me faire arrêter parce que je gâtais avec mes raisonnements ultramontains la bonne religion de ses trois fils, dont le premier est aujourd'hui Paul de Saint-Marc et les deux autres membres à leur tour du comité des dix. Quelques-uns disaient que le conseiller Hant C., inquisiteur d'État à l'heure de ma détention et protecteur du théâtre de Saint-Ange, m'avait fait enfermer en qualité de perturbateur du repos public, puisque je sifflais les comédies de l'abbé Chiari, lié à la clique du Lénache Mercante Z, chef du parti de Goldoni. On assurait que si l'on ne m'eût pas fait enfermer, j'allais tuer le même abbé à Padoue. Toutes ces accusations avaient quelques fondements qui les rendaient vraisemblables, mais elles étaient toutes controuvées. Je n'étais pas assez soucieux de religion pour penser à en bâtir une nouvelle. Les trois fils de Madame L.M., remplis d'esprit, étaient plus faits pour séduire que pour être séduits, et M. de Conde aurait eu trop à faire s'il eût voulu faire enfermer tous ceux qui sifflaient Chiari. Pour ce qui regarde cet abbé, il était vrai que j'avais dit que je voulais aller à Padoue pour le tuer, mais le père Lorigo, illustre jésuite, m'avait calmé en m'insinuant que je pouvais me venger de ce qu'il m'avait ridiculisé dans un mauvais roman, mais pas autrement que comme il est permis de se venger à un bon chrétien. Il me dit d'aller faire publiquement son éloge dans les cafés où il était connu. Mais je suivis son conseil et j'ai trouvé la vengeance parfaite. D'abord que j'en avais dit du bien, tout le monde, en se moquant de mon éloge, prononçait contre lui des satires sanglantes. Je suis devenu l'admirateur de la profonde politique du père Origo. Vers le soir, on porta lit, fauteuil, linge, eau de senteur, un bon dîner et des bouteilles de bon vin, monsieur l'abbé, qui n'a rien pu prendre, mais je ne l'ai pas imité. Depuis 9 mois que j'étais là, ce fut le premier bon repas que j'ai fait. On laissa mon lit là où il était, on ne balaya pas, on nous fit entrer et nous restâmes seuls. J'ai commencé par tirer hors du trou ma lampe et ma serviette, qui, tombée dans la casserole, s'était imbibée d'huile. J'en ai beaucoup ri. Un accident de peu de conséquences, arrivé par une raison qui pouvait en avoir des tragiques, a droit de faire rire. J'ai mis tout en bon ordre. J'ai bien nettoyé ma casserole qui était pleine de terrazzo. Je l'ai garnie de nouveau et nous nous vîmes éclairés. J'ai beaucoup diverti mon cher compagnon en lui faisant le détail de la création de ma lampe. Nous avons passé la nuit sans dormir, non pas tant à cause d'un million de puces qui nous dévoraient comme de 100 discours intéressants qui ne finissaient jamais. Mais lorsqu'il me vit curieux de savoir par quelle malheureuse aventure je possédais sa chère compagnie, voilà ce qu'il n'eut aucune difficulté de me dire et que je crois de pouvoir publier au bout de 32 ans de silence. Hier, à 20h, nous montâmes dans une gondole, Madame Alès, le comte Pémart et moi, et arrivâmes à Foussine à 21. Nous fûmes à Padoue à 24 pour voir l'opéra et repartir d'abord après. Au second acte, mon mauvais génie me fit aller à la salle du jeu où j'ai vu le comte de Ross, ambassadeur de Vienne, et peu loin de lui, Madame de R, dont le mari doit partir un de ses jours pour aller à la même cour en qualité d'ambassadeur de Venise. J'ai fait ma révérence, muette à monsieur qui n'était pas en masque, et j'ai fait un compliment à Madame l'ambassadrice. J'allais sortir lorsque monsieur de Ross me dit tout haut: vous êtes bien heureux de pouvoir parler à une si aimable dame. Ce n'est que dans des pareils moments que le personnage que je représente fait que le plus beau pays du monde devient ma galère. Dites-lui, je vous prie, que je la connais et que les lois qui m'empêchent de lui parler ici n'auront aucune force à la cour de Vienne, où je la verrai l'année prochaine et où je lui ferai la guerre. Madame de R, qui vit que le comte parlait d'elle, me fit signe et me demanda en riant ce qu'il avait dit. Je lui ai redit le compliment, et elle m'ordonna de lui répondre qu'elle acceptait la déclaration de guerre et que l'on verrait quel serait celui des deux qui saurait la faire à l'autre plus habilement. Je n'ai pas cru de commettre un crime en rendant cette réponse qui n'était qu'un compliment. J'ai perdu quelques sequins au Pharaon et j'ai rejoint ma compagnie. Après l'opéra, nous fûmes manger un poulet et nous retournâmes ici. Il était 14h. Je me suis d'abord rendu chez moi pour dormir jusqu'à 20, mais un homme me remit un billet qui m'ordonnait d'être à la boussole à 19h pour entendre ce que le circonspect PB, secrétaire du conseil des 10, avait à me dire. Étonné de cet ordre, toujours de mauvais augure, et fort fâché de devoir y obéir, je me suis rendu à l'heure prescrite à la présence du ministre, qui, sans me dire le moindre mot, ordonna qu'on me dépose ici. Voilà tout. Rien n'était si innocent que cette faute, mais il y a au monde des lois qu'on peut violer innocemment, et les transgresseurs n'en sont pas moins coupables. Je lui ai fait compliment sur ce qu'il savait sur son crime et sur la forme de sa détention, et comme sa faute était fort légère, je lui ai dit qu'il ne resterait avec moi que 8 jours, et qu'après une petite réprimande, on lui dirait d'aller passer 6 mois chez lui, à Bresse. L'abbé me dit sincèrement qui ne croyait pas qu'on le laisserait là 8 jours. Et voilà l'homme qui, ne se sentant pas coupable, ne peut pas concevoir qu'on puisse le punir. J'ai laissé qu'il se flatte, mais ce que je lui ai dit lui est arrivé au pied de la lettre. Je me suis bien déterminé à lui tenir bonne compagnie pour soulager de tout mon pouvoir la grande sensibilité que lui causait sa détention. Je me suis approprié son malheur au point d'oublier totalement le mien dans tout le temps qu'il passa avec moi. Le lendemain, à la pointe du jour, Laurent porta du café et dans un grand panier le dîner du comte Abbé, qui ne concevait pas comment on put supposer qu'un homme aurait envie de manger à cette heure-là. Nous nous promenâmes dans le galetas tandis qu'on servit les autres. On nous renferma après. Les puces qui impatientaient l'abbé furent la cause qu'il me demanda pourquoi je ne faisais pas balayer. Bon, je n'ai pu sourire ni qu'il me croie un cochon, ni qu'il imagine que j'eusse la peau moins sensible que la sienne. Je lui ai tout découvert et même fait voir. Je l'ai vu surpris et mortifié de m'avoir d'une certaine façon forcé à lui faire cette importante confidence. Il m'encouragea à travailler et à terminer l'ouverture dans la journée, s'il était possible, pour me descendre lui-même et retirer ma corde, puisque pour lui ne se souciait pas de rendre son affaire plus grave par une fuite. Je lui ai fait voir le modèle d'une machine par laquelle j'étais sûr que lorsque je me serais descendu, je tirerais à moi le drap qui m'aurait servi de corde. C'était une petite baguette attachée par un bout à une longue ficelle. Mon drap ne devait être assuré au chevalet de mon lit que par cette baguette qui devait entrer dans la corde par-dessous le chevalet des deux côtés. La ficelle maîtresse de la baguette devait aller jusqu'au plancher de la chambre des inquisiteurs, où, dès que je me serais vu debout, je l'aurais tiré à moi. Il ne douta pas de cet effet, et il m'en félicita, d'autant plus que cette précaution m'était indispensablement nécessaire, puisque si le drap eût dû rester là, il eût été le principal objet qui aurait frappé la vue de Laurent, qui ne pouvait monter où nous étions sans passer par cette chambre. Il m'aurait d'abord cherché, trouvé et arrêté. Mon noble compagnon fut persuadé que je devais suspendre mon travail car je devais craindre la surprise, d'autant plus que je devais encore employer quelques jours pour achever ce trou qui devait coûter la vie à Laurent. Mais la pensée d'acheter ma liberté aux dépens de ces jours ne ralentissait pas mon empressement à me la procurer. J'en aurais agi de même quand la conséquence de ma fuite eût évidemment été la mort de tous les archers. L'amour de la patrie devient un vrai fantôme devant l'esprit d'un homme en prison. Ma bonne humeur m'empêchait cependant pas, mon cher camarade, de tomber dans des quarts d'heure de tristesse. Il était amoureux de Madame Malès. Il devait être heureux, mais plus l'amant est heureux, plus il devient malheureux, si on l'arrache de l'objet qu'il aime. Il soupirait, les larmes sortaient de ses yeux malgré lui, et obligé à convenir que ce qui le faisait gémir était quelque malheur qui n'existerait pas sans la prison, il m'avoua qu'il aimait, et me dit que l'objet de sa flamme était l'assemblage de toutes les vertus, ce qui ne permettait pas à son ardeur d'aller au-delà des bornes du respect le plus profond. Je le plaignais sincèrement, et je ne me suis jamais avisé de lui dire, pour le consoler, que l'amour n'est que bagatelle, puisque c'est une consolation désolante que les seuls sots donnent aux amoureux. Il n'est même pas vrai que l'amour ne soit que bagatelle. Je me suis plusieurs fois félicité là-dedans de ce que je n'étais pas amoureux, et ma dernière pensée fut celle de la fille avec laquelle je devais aller déjeuner à Sainte-Anne le jour de ma capture. Les 8 jours que j'avais prédits passèrent bien vite. J'ai perdu cette chère compagnie, mais je ne me suis pas laissé le temps de la regretter. Je n'ai jamais eu garde de recommander à cet honnête homme la discrétion. Le moindre de mes doutes sur cet article m'aurait rendu coupable d'une insulte. Le 3 de juillet, Laurent lui dit de se présenter à sortir à Terza, qui dans ce mois sonne à 12 heures. Par cette raison, il porta mon dîner. Celui de l'abbé suffisait pour 4, quoiqu'il n'ait vécu que de soupe, de fruits et de quelques verres de vin des Canaries. C'est moi qui fis dans ces 8 jours une chair exquise, qui faisait plaisir à mon ami qui admirait mon heureux tempérament. Nous passâmes les 3 dernières heures dans les protestations de la plus tendre amitié. Laurent parut, descendit avec lui et laissa mon cachot ouvert, ce qui me fit juger qu'il allait d'abord revenir. 1 quart d'heure après, il reparut, fit emporter tout ce qui appartenait à cet aimable homme, et me renferma. J'ai passé toute la journée fort triste, sans rien faire et même sans pouvoir lire. Le lendemain, Laurent me rendit compte des dépenses du mois de juin, et je l'ai vu attendri, lorsque, ayant trouvé qu'il me restait 4 sequins, je lui ai dit que j'en faisais présent à sa femme. Je ne lui ai pas dit que c'était le loyer de ma lampe, mais il l'a peut-être pensé. Entièrement adonné à mon travail, j'ai passé 7 semaines sans avoir jamais été interrompu, et le 23 d'août, j'ai vu mon ouvrage à sa perfection. La raison de cette longueur fut un incident très naturel. En creusant la dernière planche, toujours avec la plus grande circonspection, pour ne la rendre que fort mince, parvenu très près de sa surface opposée, j'ai mis l'œil à un petit trou par lequel je devais voir la chambre, et effectivement je l'ai vu, mais en même temps j'ai vu, très peu distante du même petit trou qui n'était pas plus grand qu'une goutte de cire, une surface perpendiculaire d'environ 8 pouces. C'était ce que j'avais toujours craint. C'était une des poutres qui soutenait le plafond. Je me suis vu forcé à rendre le trou que j'avais fait plus grand du côté opposé à cette poutre, car elle rendait le passage si étroit que ma personne d'assez riche taille n'aurait jamais pu y passer. J'ai dû rendre le trou plus grand d'un quart, craignant encore toujours que l'espace entre les deux poutres ne fût pas suffisant. Après l'ampliation, un second petit trou du même calibre que j'ai fait et où j'ai mis l'œil, me fit voir mon ouvrage, Dieu merci, réduit à sa perfection. J'ai bouché les petits trous pour empêcher que les petits fragments ne tombent dans la chambre des inquisiteurs et qu'un rayon de lumière de ma lampe, en y passant, ne donnât indice de mon opération à quelqu'un qui aurait pu l'apercevoir. J'ai fixé le moment de mon évasion dans la nuit précédant la fête de Saint-Augustin, non pas tant parce qu'il y avait déjà plus de 4 semaines que je l'avais fait mon protecteur, comme parce que je savais que dans cette fête-là, le grand conseil s'assemblait, et que par conséquent, il n'y aurait pas de monde à la boussole, contigu à la chambre, par laquelle je devais nécessairement passer en me sauvant. J'ai donc fixé de sortir dans la nuit du 27. La journée du 25 à midi, il m'arriva, ce qui me fait frissonner encore dans ce moment où je vais l'écrire. À midi précis, j'ai entendu le glapissement des verrous. Oh, j'ai cru de mourir. Un violent battement de cœur qui frappait plus que 6 pouces plus bas que sa région me fit craindre mon dernier moment. Je me suis jeté et perdu sur mon fauteuil. Laurent, en entrant, me dit, mettant sa tête à la grille avec un ton de jouissance, « Je viens, monsieur, vous portez une bonne nouvelle, dont je vous félicite. » J'ai d'abord cru que c'était celle de ma liberté, car je n'en connaissais pas d'autre qui pût être bonne, et je me voyais perdu. La découverte du trou aurait fait révoquer ma grâce. Laurent entre et me dit d'aller avec lui. Je lui réponds d'attendre que je m'habille. « N'importe, me dit-il, puisque vous ne faites que passer de ce vilain cachot à un autre clair et tout neuf, où par 2 fenêtres vous verrez la moitié de Venise, où vous pourrez vous tenir debout. » Mais je n'en pouvais plus, je mourais. Je le lui ai dit. J'ai demandé du vinaigre en le priant d'aller dire à monsieur le secrétaire que je remerciais le tribunal de cette grâce, en le suppliant au nom de Dieu de me laisser là. Laurent me dit, avec un grand éclat de rire, que j'étais fou, que le cachot où j'étais s'appelait l'enfer, et que celui où il avait ordre de me mettre était délicieux. « Allons, allons, ajouta-t-il, il faut obéir. Levez-vous, je vous donnerai le bras, je vous ferai d'abord porter toutes vos hardes et tous vos livres. » Étonné et en devoir de ne plus répliquer le moindre mot, je suis sorti et j'ai, dans l'instant, ressenti un petit soulagement en entendant ordonner à l'un des siens de le suivre avec mon fauteuil. Mon esponton était caché dans sa paille. C'était toujours quelque chose. J'aurais voulu me voir suivi par le beau trou que j'avais fait avec tant de peine, mais c'était impossible. Mon corps allait, mais mon âme restait là. Le bras appuyé sur l'épaule de cet homme, qui par ses risées croyait d'exciter mon courage, j'ai descendu 3 petits degrés après avoir passé 2 étroits corridors. Je suis entré dans une salle assez grande et très éclairée, et à son extrémité, dans le coin à main gauche, je suis entré par une petite porte dans un corridor qui avait 2 pieds de large et 12 de long, et 2 fenêtres grillées à ma droite, par où on voyait distinctement toute la partie de la ville qui était de ce côté-là jusqu'au Lido. La porte du cachot était au coin de ce corridor. J'ai vu une fenêtre grillée qui était vis-à-vis d'une des deux, de sorte que le prisonnier, quoique enfermé, pouvait jouir en bonne partie de cette agréable perspective. Le plus important était que cette même fenêtre ouverte laissait entrer un vent doux et frais, qui était un vrai baume pour la pauvre créature qui devait respirer là-dedans, principalement dans cette saison où l'air était brûlant. Je n'ai pas fait ces observations en ce moment-là, comme le lecteur peut bien penser. D'abord que Laurent me vit dans le cachot, il y fit placer mon fauteuil, sur lequel je me suis d'abord jeté, et s'en alla en me disant qu'il allait me faire porter dans l'instant mon lit avec tout le reste. Fin de la première partie.